actions pour demander le départ d'Alexandre Loukachenko sont réprimées. Selon les ONG de défense des droits de l'homme, en 5 mois, 30 000 personnes ont été arrêtées et au moins 4 manifestants ont été tués. Sur Telegram, Svetlana Tikhanovskaya estime que ce championnat du monde servira de paravent aux tortures et aux meurtres du régime. Une célébration sportive ne peut pas se tenir dans un pays où des prisonniers politiques croupissent dans des cachots à quelques kilomètres des patinoires, écrit l'opposante, appelant toutes les fédérations nationales au boycott de l'événement s'il était organisé à Minsk.
C'était Anastasia Becchio, 9h10 à Paris. Juan Gomez, c'est à vous.
Merci Jeanne Bartoli, bonne journée et on vous retrouve demain dans la matinale de RFI.
Radio G, 101.5 FM.
Impromptu littéraire.
Voici quelques pages écrites par Anne Brunswick sur les Juifs de Sibérie au début du XXe siècle.
Poétesse et universitaire.
Amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous vous proposons la lecture à plusieurs voix.
Dans cet extrait du chapitre 5, intitulé « Où bourreaux et victimes en mêlent leur récit »,
pour amener un peu de légèreté dans cet univers marqué par une histoire souvent terrible,
je vous ai choisi un extrait du chapitre 9, intitulé
de navire miniature en plexiglas.
On sélectionne la main-d'œuvre destinée aux mines, aux chantiers, aux coupes de bois.
Des textes d'auteurs du 20e et du 21e siècle viennent jusqu'à votre oreille. Écoutez.
Auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous allons vous lire quelques nouvelles extraites du dernier livre de Philippe Delerme, Je vais passer pour un vieux con, et autres petites phrases qui en disent long. Philippe Delerme est l'auteur de plusieurs recueils de courtes nouvelles, dont notamment La première gorgée de bière, La sieste assassinée et Ma grand-mère avait les mêmes. Il croque avec justesse les travers de notre quotidien, en mettant en exergue ces petites phrases anodines dont nous abusons par mode, mimétisme et qui bien souvent nous trahissent.
Je vais passer pour un vieux con. Dans la liste des précautions oratoires, celle-ci occupe une place à part. Elle n'a pas l'aspect cauteleux, gourmet, en demi-teinte de ses congénères. Elle souhaite jouer la surprise par sa forme, une vulgarité appuyée qui aurait pour mission de gommer à l'avance le pire des soupçons, une pensée réactionnaire. L'interlocuteur ne doit pas se récrier avant la remarque promise, mais une petite réticence aux commissures des lèvres signifiant « Toi, passé pour un vieux con, semble bienvenu. » Elle était espérée. Le propos qui suit peut toucher à l'éducation des enfants. La manière de faire des cadeaux, les principes de politesse, le comportement à table, la montée et la descente dans le wagon des usagers du métro. Mais il y aura de toute manière référence à un passé jugé préférable. Dans le non-dit passe pourtant une référence sous-entendue à une expérience quasi-libertaire. Oui, c'est moi qui dis ça. Et pourtant tu connais mes opinions. Je n'étais pas le dernier à vouloir du nouveau en mai 68. C'est peut-être alors qu'il eût été opportun de jeter dans la foulée une réflexion passéiste, presque séduisante, qui serait venue délicieusement à contre-courant, en parenthèse, juste vouée à cautionner une intégrité intellectuelle supérieure. Car oui, à 25 ou 30 ans, avec la séduction physique, l'écharpe au vent, la chevelure folle, on peut tenter de donner un petit coup de canif dans le politiquement correct, et même envisager de provoquer la concession, voire l'assentiment. Après, cela devient plus périlleux et bientôt suicidaire. la seule habitude de faire précéder ses réflexions d'une précaution oratoire a déjà quelque chose de rédhibitoire. Inutile de révéler soi-même en sus le prix sur l'étiquette. On passera pour un vieux con.
C'est moi. La vie moderne a inventé ce bonheur. C'est le revers de tous les enfermements, de toutes les mises à distance, de toutes les méfiances occasionnées par le progrès. Avant, on s'avançait, on entrait dans le champ visuel de l'autre, on le voyait sourire, bien sûr. Mais plus vive est la sensation de passer par la voix, le truchement d'un haut-parleur juste à côté d'un digicode, et de lancer « C'est moi !» à distance du regard, plus besoin de pudeur pour dire la satisfaction profonde d'être celui, celle que l'autre attendait. On y met un élan, une fraîcheur, dissipant toutes les fatigues, les mélancolies. C'est moi. On ne sait pas toujours quel est ce moi. Il se dilue parfois dans des jeux, J-E, hasardeux, que l'on rassemble mal. C'est peut-être pour cela aussi qu'il y a ce regain d'enthousiasme dans cette fraction de seconde jubilatoire. Le haut-parleur de l'interphone prend une vacance amplifiée où l'on va faire tomber une identité soudain reconstituée, parfaite. Pas moyen de faire chuter l'inflexion de la voix sur la seconde syllabe, de signifier « ce n'est que moi ». Non, le « moi » monte vers l'aigu, l'exclamation, une sorte d'allégresse. C'est très humble en même temps. Il y a des milliards d'habitants sur Terre et l'on n'est moi que pour un autre, deux au plus. Mais l'intensité du plaisir vient de cette singularité fantastique, inquiétante parfois, mais protectrice à ce moment. En bas de l'immeuble, on jette dans la boîte à voix une bouffée de froid roborative ou bien la laine de l'été. On vient vers celui qui nous sait. On lui apporte un tout petit nuage d'oxygène, un infime bouleversement du quotidien. Pas moyen de trouver une place, je n'ai fait que courir depuis ce matin. Ça, c'est juste pour donner le change quand on aura gravi des marches, emprunté l'ascenseur. Comme pour faire oublier cette ivresse de certitude, avoir été celui qui dit « c'est moi ».
Tout d'abord, bonjour. On croyait avoir pris toutes les précautions d'usage pour s'adresser aux vendeurs dans ce grand magasin à vocation essentiellement culturelle. Accroupi devant un rayonnage de CD, il vous tournait le dos. Vous a-t-il vu venir ? On n'en jurerait pas, mais on pense que oui. On pousse la mauvaise foi jusqu'à être sûr qu'il a accentué sa concentration rangeuse au moment où il a senti que vous vous approchiez. Votre « excusez-moi de vous déranger, mais j'aurais voulu » était-il à ce point bredouillé que la première partie s'en est perdue, peut-être avalée par le fond sonore diffusé dans l'absence ouatée. Toujours est-il que sa surprise affectée, son coup de tête dubitatif dans votre direction, porte déjà toutes les marques du reproche. Ainsi, vraiment, il n'y avait pas un autre vendeur disponible ? En position verticale, lui, quelqu'un que l'on n'eût pas offensé en l'arrachant à une posture physique servile et humiliante ? Son redressement pour venir à votre hauteur traduit déjà dans sa lenteur la mauvaise grâce provoquée par cet outrage. Mais quand les mots viennent à ses lèvres, c'est bien pire. L'hostilité amassée en quelques secondes par cette situation infiniment reproductible, mais dont il joue la singularité avec un indéniable talent, prend alors cette forme redoutable. Tout d'abord, bonjour. Bonjour. Ah oui, vous êtes sans doute en faute aussi par l'absence de bonjour. Encore qu'à la réflexion, vous ne soyez pas persuadé de cette muflerie. Tout d'abord, bonjour. Je suis un homme comme vous. Le rangement à croupetons est une des tâches qui me sont assignées, mais je pourrais vous donner des leçons sur les exigences de la civilité. Le pire est que le conseiller ressources clientèle, c'est à lui que l'on s'adresse à présent, et c'est vrai qu'on le considérait davantage comme un simple vendeur alors qu'il était à nos pieds, peut devenir d'une amabilité parfaitement insultante puisqu'elle souligne moins la compétence professionnelle de ses indications qu'une qualité d'âme dont vous resterez dépourvu. Étrange scène qui finit tout miel, tout sucre, avec de votre part un « merci beaucoup, monsieur » des plus soufflés, qui ne remplacera jamais l'impossible et désespérément nécessaire. Je vous promets, je ne vous prenais pas pour un esclave.
je vais vous faire une confidence. Depuis quelques minutes, cet homme politique interviewé dans une émission au long cours a trouvé une cadence alerte. Dans un premier temps, il a dû réfuter des objections prévisibles, mais qui donnaient à sa prestation le rythme d'un parcours d'obstacles. Et voilà qu'il s'envole, mis en confiance par la célérité de son élocution, le sentiment presque sportif d'être dans un bon jour. On lui laisse enfin la bride sur le cou, et c'est tellement plus facile alors de se sentir efficace, convaincant. Presque naturellement, son débit de plus en plus maîtrisé monte vers une pause qui fait partie du rythme interne de la péroraison. Et voilà qu'il déclare, avec une petite intonation complice, le visage penché vers la journaliste qui l'interroge, le regard conciliant, partageur, la voix soudain plus basse. Et puis, je vais vous faire une confidence. Une confidence. Cette promesse sucrée dans un monde de brutes ne surprend pas. Quand ils se croient en position définitivement victorieuse, les politiques finissent toujours par éprouver le besoin de faire une confidence. Est-ce bien le moment, toutefois ? Des millions de gens ont partagé l'intimité de cet épanchement. On est loin de l'ombre fraîche du confessionnal. Le soleil des projecteurs menace le maquillage. S'il s'agit d'annoncer un niveau de vérité supérieur, et il semble bien que ce soit le cas, cet aparté entache sensiblement tout ce qui précède et tout ce qui suit. On avoue qu'on était, qu'on sera dans la vérité relative, partisane, et qu'on les aura quittés seulement pour cette trop brève confidence. Un petit sourire équivoque aux lèvres, la journaliste accueille avec un mélange de gourmandise et de prudence cet étalage d'une adroite maladresse. C'est un homme nu qui lui parle, mais ne va rien lui confier de bien secret, rien qui ne puisse être entendu par des millions de téléspectateurs. Cette part d'humanité coquette et trop soulignée, c'est encore de la politique. La ficelle était grosse, au yo-yo de la vérité.
Quand on est dedans, elle est bonne. Bien sûr, on a davantage l'occasion de prononcer cette phrase sur une plage de Normandie, de Bretagne ou du Pas-de-Calais. Assis sur le sable, on supporte facilement un pull et le vent souffle. Si on choisit finalement d'y aller, c'est moins par enthousiasme, par jubilation envisagée, que pour la satisfaction mentale d'y être allé, de ne pas connaître la petite défaite du renoncement. On avance dans l'eau par étapes, l'orteil réticent, la sensation à mi-jambe plus encourageante, mais le passage en haut des cuisses, puis surtout à mi-ventre, franchement dissuasif, et franchi seulement pour ne pas encourir une blessure d'amour-propre. Quand on se décide enfin à livrer tout le corps à l'élément liquide, les premières brasses sont encore réfrigérantes, en dépit de leur énergie précipitée. Mais c'est vrai qu'en 2 ou 3 minutes, le mal s'apaise. Il y aurait une certaine mauvaise foi à parler déjà de bien-être. C'est pourtant ce dernier qu'on va revendiquer en s'adressant à ceux de la tribu qui n'ont pas encore tenté l'expérience. À la frange de l'eau, il demeure crispé, la moue aux lèvres, les bras croisés souvent, une main venant frotter l'épaule opposée grelottante. On est sincère cependant leur criant « Quand on est dedans, elle est bonne !» De louables intentions sont à l'origine de ce jugement qui ressemble beaucoup à une exhortation. « Vous allez voir, c'est pour votre bien !» Juste un petit moment désagréable à traverser, et puis vous connaîtrez la même satisfaction que moi. C'est là peut-être que la volupté promise n'est pas suffisamment incitative. Dans le meilleur des cas, vous éprouverez le même plaisir que moi. Votre courage à affronter les flots sera par contre déprécié, puisque je vous en aurai annoncé l'issue favorable. Ça ne sera plus une aventure. Juste la confirmation du bien fondé de ma pensée. La proximité affective joue plutôt à rebrousse-poil dans ces cas-là. Le mimétisme promis n'a rien d'un nirvana, surtout s'il est précédé d'un dictatisme enthousiaste dans la forme, mais un brin condescendant dans le fond. On a presque chaud d'y être allé maintenant. Pour la même raison trop claironnée, les autres ont de plus en plus froid et n'iront pas.
Nous vous invitons à vous rapprocher. il est toujours de mise le grommellement indistinct des vacances de Monsieur Hulot qui précipite tous les estivants vers un souterrain puis un autre dans l'incertitude de l'annonce qui vient de leur être faite sur le quai. Mais même quand le message se détache clairement dans la gare, on entend des choses un peu étranges. Ainsi, cette formule, très utilisée désormais, qui suit la nouvelle plutôt récurrente d'une perturbation sur votre ligne. Nous vous invitons à vous rapprocher d'un agent de la SNCF afin de... Nous vous invitons à vous rapprocher. Il serait certes maladroit d'intimer à chacun l'ordre d'entrer en collision avec un agent de la SNCF. La douceur est bienvenue. Mais cette notion de rapprochement recèle aussi une dose assez savoureuse d'absurdité. On se doute bien qu'elle a été choisie après un long débat par un expert en communication encore plus matois que les autres. Mais jusqu'où se rapprocher ? S'il s'agit de claironner aux oreilles de l'employé l'intensité de votre insatisfaction, une distance conséquente est préférable pour lui. Mais ce n'est pas cela qui est envisagé. Le seul emploi du verbe « rapprocher » suppose une promesse d'échange tout en courtoisie, tout en velours. Et puis, ce ne sont pas les employés qui donneront des informations. C'est vous qui entreprendrez les manœuvres d'approche. Vous serez donc en position d'infériorité. Sans déflorer l'intégrité physique des respectables salariés de la SNCF, contraints de subir l'agression répétée d'usagers audacieusement demandeurs d'éclaircissements sur leur destin ferroviaire, et même si votre idée première n'était pas de les violer ni de les attaquer à la machette, vous pourrez vous en rapprocher. Finalement, c'est davantage l'idée du maintien d'une certaine distance qui domine dans le message. Vous n'aurez pas accès à des moyens de rétorsion physique ou mentale, mais en respectabilité réciproque et, disons, jusqu'à 50 cm de distance, sans utilisation de la gégène aux aveux, vous pourrez vous rapprocher.
J'étais pas née. Celle-là, elle a la palme. Tout en haut du podium, des phrases les plus stupides et les plus agaçantes. Elle a certes l'excuse de répondre parfois à un étonnement mal maîtrisé. Vous ne connaissez pas ? Mais la réponse, lancée avec une hostilité boudeuse et néanmoins triomphante, est devenue un classique de ce jeu télévisé. Non, je ne connaissais pas ce tube planétaire des Beatles, ce discours du président Kennedy à Berlin, le titre du premier roman de François Sagan. L'absence de ces connaissances n'a rien en soi de stupéfiant. Mais c'est la raison invoquée qui est en cause, en ce qu'elle veut transformer l'insuffisance en supériorité. Vous connaissez la réponse parce que vous êtes vieux, je l'ignore parce que je suis plus jeune. Alors, Rembrandt, Victor Hugo, Pascal, pas davantage. Une attitude tellement ridicule que son interprète le sent bien, d'ordinaire, et se voit contraint de la revendiquer rétrospectivement, comme une boutade, seul moyen de garder la face dans une situation où il faut avaliser son élimination sans trop déchoir. Certains, toutefois, répètent d'un ton buté, comme si c'était la clé du monde. « J'étais pas né. » Avec une avancée du menton, qui évoque le mâchouillement obstiné d'un éternel chewing-gum. Dans un autre jeu, les vieux ont leur propre idiotie défensive qui prend la forme d'un « je connaissais les réponses, mais ça va trop vite ». Et on n'ose pas toujours leur demander pourquoi ils viennent si spontanément risquer le ridicule dans une compétition manifestement basée sur la vitesse. Mais du « j'étais pas né », il reste quelque chose de plus désagréable. L'idée que derrière le révélateur de la culture se cache une façon de vivre dans un univers différent, partagé seulement pour l'apparence. Qu'un début de personnalité trouverait son essence dans une appartenance à une classe d'âge, si tant est que les émetteurs de cette sentence puissent avoir une personnalité. Question à 1000 euros. Vous connaissez la bêtise? Levez les yeux au ciel, cherchez. Vous étiez déjà né.
Et ce soir? Ah non, mercredi prochain, je suis en séminaire. Le mercredi suivant alors? Là, c'est moi qui ne vais pas pouvoir. Je dois garder les enfants de ma sœur. Il faut bien en convenir. Les projections dans l'avenir sont de plus en plus complexes, même dans les vies apparemment les plus libres, les plus simples. Est-ce seulement le rythme imposé par la société ou la réponse rassurante donnée à un risque existentiel? En tout cas, le résultat est là. Un maillage des jours de moins en moins lâche qui peut aller de la tyrannie obligatoire du travail envahissant jusqu'aux contraintes des cours de karaté ou de piano pour les petits jusqu'à celle du club de généalogie ou d'aquagym pour les plus âgés. De plus en plus difficile de passer par surprise, tant le risque est grand de tomber mal ou de trouver porte de bois. Déjà, le simple appel téléphonique doit s'accompagner d'un « je ne te dérange pas » qui va parfois jusqu'à l'affirmatif « je te dérange ». Alors, devant le panorama inextricable de toutes ces choses à faire, de tout ce prévu, de tous ces agendas au sens le plus latin du terme, un des protagonistes finit par lancer comme une incongruité désespérée, mais avec une petite excitation déjà conquérante. Et ce soir? Ce soir? Touché par ce direct à l'estomac, l'autre reprend les deux derniers de ces trois mots, les fait planer dans l'espace. Ce concept outrecuidant d'une proposition quasi immédiate doit d'abord passer dans une phase d'apesanteur, de dématérialisation sémantique. Mais un sourire se dessine bientôt au coin des lèvres. Ce soir? Oui, après tout, pourquoi pas? C'est incroyable, je suis libre et toi aussi, comment n'y avons-nous pas pensé plus tôt? C'est comme si on revenait avec bonheur à une vie d'autrefois, où l'on pouvait se voir au débeauté sans projection préliminaire. Finalement, le temps ne nous a pas mangé. Ce soir, on peut toujours.
Attention! L'assiette est très chaude. C'est une phrase importante dans le monde des serveurs et des servis. En s'installant au restaurant, on prête une attention particulière au garçon, qui n'a pas besoin d'interrompre une discussion pour vous confier comme une leçon apprise en vous tendant le menu. Aujourd'hui, nous vous proposons une poêlée de Saint-Jacques avec son risotto aux cèpes, en dessert. Autour de la table, un convive ponctue son écoute polie d'une oscillation du chef avec haussement de sourcils qui signifie « intéressant » quand les autres éludent en se plongeant dans la lecture du menu avec un merci obséquieusement hypocrite. Mais à ce cérémonial gourmet va bientôt succéder une conversation abondante activée par la dégustation d'un petit bourgueil chambré. Le serveur s'y résigne, dissillant ses interventions avec une discrétion héroïque, parfaitement ignorée par les commensaux. Il sait déjà que le dialogue se renouera au moment d'apporter le plat principal. « Attention, l'assiette est très chaude !» Cette annonce, apparemment objective, est riche de connotations diverses. D'abord, mine de rien, le garçon sait qu'il va modifier l'attitude des convives. Ces derniers sont tous penchés en avant depuis une demi-heure, happant leur chance de lancer une remarque ou une anecdote dans le brouhaha grandissant de la salle. Le « Attention, l'assiette est très chaude !» les contraindra au moins un recul du buste, voire à quelques secondes de silence. La phrase peut être proférée avec une autorité expéditive, mais elle l'est plus souvent d'un ton prévenant, presque onctueux. Elle dépasse de beaucoup le « Rappelez-vous que j'existe !» dont elle reste cependant chargée. Sa dimension est également gastronomique. Ici, nous ne faisons pas n'importe quoi. Si l'assiette est très chaude, c'est que le plat servi a requis tous nos soins. Et si vous n'êtes pas des rustres complets, vous allez quitter votre enjouement prévisible et presque mécanique pour vous concentrer un peu sur ce que vous avez commandé. Plus tard, le « vous prendrez des cafés » ne sera qu'accessoire et servira d'épilogue. Mais la dramaturgie souterraine du non-dit « serveur servi » aura trouvé son apogée dans la soumission victorieuse de cet ordre masqué.
gourmandise. La charlotte au chocolat, spécialité de la maîtresse de maison, clôt un repas plutôt calorique où la blanquette de veau amoureusement mitonnée fut déjà l'objet de récriments enthousiastes. Mais cette charlotte, c'est une tuerie, comme l'a proclamé un des jeunes commensaux. Une formulation dont les plus âgés saluent la ferveur sans se départir en leur fort intérieur d'un sentiment d'inadéquation. Pour ceux dont le taux de cholestérol est élevé, il y a même dans cette assertion une menace involontaire dont ils se seraient dispensés. Les plus goulus ont accepté de reprendre une part de charlotte, et même une lampée de crème anglaise, avec un « ce n'est pas raisonnable » qui a séduit par sa jovialité, tempérée pour la forme d'une once de mauvaise conscience au moins simulée. Mais les hôtes les plus retors ou les plus astreints à un régime auquel ils ne veulent pas trop déroger finissent par accepter une part qu'ils réduisent à la portion la plus congrue possible. Et le petit mouvement restrictif de l'appel à gâteau reçoit toujours en écho cette phrase ambiguë. C'est vraiment par gourmandise. Gourmandise, c'est quand même un peu spécieux d'employer ce mot de péché capital pour négocier le triangle de charlotte le plus menu. Disons que c'est habile. On revendique la gourmandise au moment où on la condamne et la réduit. L'amour-propre de la cuisinière sera sauvegardé par cette évocation d'une irrépressible envie tout à fait réprimée. Comme toujours, l'adverbe est de mauvais aloi. Vraiment. Il faut se méfier quand on vous dit « honnêtement, vraiment ». La fausseté et le mensonge sont cachés dans la nécessité de revendiquer l'humilité et la franchise. C'est vraiment par gourmandise, c'est seulement de la politesse.
Je vais chez Mantec. On n'annonçait pas « je passerai la charcuterie », mais « je vais chez Mantec ». Mantec, c'était davantage la charcuterie que la charcutière, Madame Mantec. Son tablier blanc, sa façon de dire à sa vendeuse « prends le couteau comme ça, ma fille ». Sa façon de dire « au revoir, monsieur ». 20 ans avant qu'elle ne remplace « eux » par « Delerme ». Monsieur Mantec, on le voyait très rarement. Parfois, son visage émergeait d'un petit passe-plat au fond de la boutique. Son absence rassurait. C'était parce qu'on ne le voyait pas que c'était bon. Il travaillait. La vie passait sans passer. On allait chez Mantec. On n'avait pas la moindre idée de leur prénom. Ils étaient un concept, pas une personne. Et puis, sur la place de l'église, Mantec a fermé. Et puis Fort. Et puis Héron. Et puis Mérieux, et puis Go a vendu. On ne disait pas la quincaillerie, la maison de la presse, la pâtisserie, la pharmacie, mais Fort, Héron, Mérieux, Go. C'est quand on a commencé à dire la charcuterie, la pâtisserie, la maison de la presse, que les commerces ont basculé dans le péril. On ne le savait pas encore. Maintenant, ils sont tous fermés, et c'est une autre façon de vivre dans un village. Il y a eu un plan d'urbanisation. La place est toute neuve, avec de jolis emplacements de parking devant les commerces vides. Quand on parle de la vie des villages d'autrefois, on entend toujours « Ah oui, l'instituteur, le curé, c'était les personnalités marquantes. » Dans le Côte-Soleil, on expliquait aux instituteurs qu'ils devaient incarner leur profession 24 heures sur 24. Un jour, les instituteurs ont décidé qu'ils voulaient être une personne et plus une fonction. Ils ne souhaitaient plus habiter l'école, et ils ne sont plus une fonction. Tous ne sont pas pour autant une personne. Les curés ont troqué leur soutane pour une veste qui ne cache plus leur petit bedon, mais dissimule à merveille leur spiritualité. De toute façon, le village ne se réduisait pas à l'instituteur et au curé. Le village, c'était des gens qui acceptaient de devenir une fonction. Maison de la presse et rond, pâtisserie Mérieux, pâtisserie Go. Le village, c'était quand on allait chez Mantec.
vous avez pris plaisir à écouter ces nouvelles de Philippe Delerme qui se dégustent un peu comme des petits fours, sachez que ce dernier recueil est paru aux éditions du Seuil en septembre 2012. Répondant sur la toile à la question « Si ce livre était une musique, quelle serait-elle » Delerme répondit « Une musique d'Éric Satie ». C'est donc Satie, interprétée par Anne Kefelec, que nous avons choisie pour accompagner notre lecture. Cette émission a été préparée par Marie et Annie, à la technique, Vincent et Claude Michel.
Si vous souhaitez réagir à cette émission, la télécharger et nous rejoindre, rendez-vous sur le site de Radio G 101.5 et la page d'accueil d'Impromptu littéraire. Vous nous y retrouverez. We'll be right back.
www.radio-g.fr.
Luttons ensemble contre la Covid-19. Téléchargeons l'application Tous Anti-Covid. Oh, franchement, vivement qu'on n'entende plus ce message. Ah non, vraiment. Alors s'il vous plaît, aidez-nous à nous en débarrasser. Comment? Eh bien, plus vous êtes nombreux à utiliser l'appli Tous Anti-Covid, plus elle est efficace contre le virus, et donc plus vite elle disparaîtra. Vous êtes déjà plus de 10 millions à avoir téléchargé Tous Anti-Covid, et ce n'est qu'un début. Ceci est un message du gouvernement.
Other for so long, but I've hardly known you at all. There's a stranger sleeping in my bed, one who can't count the tears that fall. I don't want to read no magazine, I don't want to watch TV. Only one thing I want in my life, open up your mind to me. Open your mind. Open your mind. Open your mind. Open your mind. Spirit get released in your arms, so open your mind to me. When I first fell in love with you, the passion burned my veins. But as all the time went by, I began to realize that I only knew part of you. Released in your arms, so open your mind to me.